milieu des temps, Marc Wetzmann.
Bonjour à tous. L'esclavage est un invariant de l'histoire humaine. On le trouve en Mésopotamie comme dans la Grèce antique, dans l'Occident moderne comme sur les routes transsahariennes, dans la Chine du XVIIe siècle comme dans l'Ouganda du XXe. C'est ce voyage géographique et temporel que propose cet automne Les Mondes de l'esclavage, ouvrage collectif d'une ambition exceptionnelle dirigé par l'historien Paulin Ismar et coordonné par les historiens Benedetta Rossi et Cécile Vidal, livre qui propose pour la première fois sous une forme accessible au grand public non pas une histoire globale de la traite, mais bien une histoire des esclavages depuis la préhistoire, depuis le néolithique pratiquement, jusqu'à aujourd'hui. Eunuque de Constantinople, homme sans nom de la Chine des Han, Brésil néocolonial, ce livre de près de 1000 pages offre un regard à la fois précis et transversal sur les différents modes de légitimation de la cruauté par lesquels des hommes en ont asservi d'autres et continuent à le faire. Pour nous, occidentaux en particulier, il permet de nourrir la réflexion sur ce mode de cruauté particulier que furent dans certains cas les Lumières. Sur ce sujet si vif qu'est aujourd'hui la mémoire de l'esclavage et des théories raciales plus complexes qu'on ne le dit. Et pour en parler, Paulin Ismar, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes spécialiste d'histoire de la Grèce ancienne, professeur d'histoire grecque à l'université Aix-Marseille. Vous avez publié plusieurs livres, dont Athènes 403, une histoire chorale, La cité et ses esclaves. Et vous êtes donc le directeur, si je puis dire, des mondes de l'esclavage qui sort cet automne. Sylvia Sebastini, bonjour.
Bonjour.
Vous avez participé au livre. Vous êtes maître de conférence à l'École des hautes études en sciences sociales, spécialiste des Lumières. Vous avez publié en anglais The Scottish Enlightenment Race Progress in the Limits of Progress, et cette semaine avec Jean-Frédéric Schaub, Race et Histoire dans les sociétés occidentales du 15 au 18e siècle, chez Albin Michel. Alors, ce livre, Les Mondes de l'esclavage, c'est vraiment une sorte d'encyclopédie du phénomène. Et la première chose que vous dites, Paulin Ismar, dans l'introduction, c'est vous parlez des manifestations actuelles et vous rappelez la manif du 23 mai 98 du Comité pour une commémoration unitaire de l'abolition. Ce qui apparaît dans le livre, c'est à quel point ce phénomène de l'esclavage a été oublié d'une certaine manière ou mis de côté, pas seulement en Occident mais presque partout. Vous ressuscitez toute une partie de l'histoire de l'humanité qui est rarement étudié à ce point.
Oui, enfin, ce qu'on a essayé de faire à trois, avec Cécile Vidal et Benedetta Rossi, c'est de décrire une histoire mondiale de l'esclavage, dans la très très longue durée et sur l'ensemble des continents, qui soit en même temps, et c'est en ça que c'est pas tout à fait une encyclopédie, un essai d'histoire comparée, où on essaie vraiment de comparer les différents systèmes esclavagistes ou les différentes sociétés esclavagistes au fil de l'histoire. Pas du tout pour construire un invariant ou des lois universelles de ce que serait l'esclavage, mais au contraire pour bien montrer l'immense variété d'un phénomène dont on peut dire qu'il est effectivement universel, mais qui se décline de façon extrêmement différente d'une société à l'autre.
Sylvia Sebastiani, au début du livre, Paulin Ismar a écrit ce que nous imaginons être le monde, celui que l'Europe inventa au cours du XVIe siècle en prétendant le faire sien et en être la mesure, ne cessa jamais d'être une multitude de mondes, de cosmographies dont le centre et l'orientation, tout comme les représentations du temps, sont dissonants. Ces mondes se sont parfois rencontrés, conquis et exploités, ils se sont aussi souvent ignorés. Vous, dans votre travail, autant dans l'article que vous publiez dans le livre que dans le livre que vous publiez ce mois-ci, vous travaillez sur ce paradoxe des lumières, du progrès, qui a permis de sortir de l'esclavage en Occident, mais qui a en même temps eu l'inconvénient de faire oublier un certain nombre de choses au nom du progrès.
Oui, vous avez résumé très bien les propos et les points. Et les nouveaux langages des droits universels, naturels et inaliénables de l'homme, issus des Lumières, a pu être concilié avec la défense de l'esclavage. Mmh. Et ça, ils font deux parties du même mouvement. Il y a aussi une question, c'est la question de l'égalité. Au moment qu'il y a des sociétés esclavagistes partout, il n'y a pas non plus une mise en question de l'inégalité est par définition un donné. A matter of fact, on dirait en anglais. Mm-hmm. Et c'est vraiment le moment qu'on met en question cette inégalité qui on commence à réfléchir aussi sur toute une série de contradictions qui arrivent. Et ça, c'est un point que je pense très important. Et le deuxième point très important, c'est que dans les Lumières, il vaut mieux regarder les Lumières comme un espace de débat. Mm-hmm. Il n'y a pas des Lumières, il y a des Lumières plurielles.
Oui.
Et il y a une polyphonie des voix et des positions qui changent dans les temps. Les mêmes auteurs, on pourra réfléchir après, parler de Voltaire.
Oui, Voltaire a changé d'avis sur le sujet, oui.
Et change d'avis sur le sujet. Et de l'autre côté, il y a une pluralité, une constellation des voix différentes qui proposent des solutions différentes. En général, on peut dire qu'on a des questions partagées et des réponses très différentes.
Oui, c'est le grand malentendu aujourd'hui où tout le monde remet en cause les Lumières comme si c'était un bloc qui avait permis ou même qui s'était satisfait ou qui avait légitimé l'esclavage, alors que les Lumières, c'est par définition un pluriel. Et c'est dans ce foisonnement qu'est apparu l'abolitionnisme, non sans conséquences compliquées d'ailleurs, on le verra tout à l'heure dans l'émission. Mais avant de venir aux Lumières, il faut commencer par parler de l'ensemble du phénomène, parce que les débats actuels se focalisent sur l'héritage des Lumières, mais en réalité, un des avantages du livre, c'est de montrer à quel point le phénomène de l'esclavage, cette façon de désigner des gens comme les expressions sont dans le livre, certaines personnes comme les anti-parents ou les anti-citoyens des sociétés ou des hommes sans nom apparaissent, vous dites, Paul-Henri Smart, probablement dès le néolithique en fait.
Oui, c'est-à-dire qu'à partir du moment où se constituent des sociétés agraires très hiérarchisées, c'est là qu'on peut observer ou essayer de reconnaître les premières traces d'individus qui sont placés manifestement dans une situation de dépendance telle qu'elle doit correspondre à un statut d'esclave. Donc effectivement, c'est attesté dès le néolithique. Un des phénomènes archéologiques les plus marquants de ce point de vue-là, Jean-Paul Demoule y revient dans le livre, ce sont les morts d'accompagnement. Mmh. C'est-à-dire des sépultures dans lesquelles on retrouve un individu manifestement doté d'un certain prestige et autour de lui, enterré à ses côtés, inhumé à ses côtés, des personnages qui sont ses dépendants.
Alors c'est un phénomène, on vient de le dire, universel, mais qui prend des visages très très multiples. Vous commencez le livre par, alors il y a évidemment l'exemple qu'on connaît presque tous, celui d'Ésope, mais vous multipliez les exemples. Au début, vous citez Nicey Pugh en Alabama en 36 qui répond à des chercheurs: je suis ni esclave mais j'ai jamais été esclave. Il y a Abina Mansa au Ghana en 1876 qui attaque son ancien maître Ekoa et raconte sa fuite pendant le procès, une fois l'esclavage pratiqué par les Ashanti aboli par le protectorat britannique. Il y a ce qui s'est passé évidemment dans le monde musulman, ou d'après Ibn Battuta, au XIVe siècle, des hommes et des femmes esclaves travaillaient dans les mines de cuivre. Il y a l'esclavage amérindien, dont on parle très peu, mais dont vous parlez dans le livre, qui est particulier. Il y a l'esclavage en Inde. Et ce phénomène divers a provoqué, vous le dites à un moment donné, un type de réaction qui est par contre toujours le même, qui est le refus. Il y a une forme de refus. Il y a toujours à un moment donné des gens qui fuient, qui essayent de se battre contre, qui essayent de se révolter contre leur statut. Ça c'est un des invariants.
Oui, bien sûr. Enfin là, ce qui était particulièrement important, de toute façon, c'est une des grandes difficultés pour nous historiens, c'est quand même de pouvoir approcher et éventuellement tenter de restituer ce que seraient les voies d'esclaves.
Oui.
C'est vraiment évidemment une très très grande difficulté. C'était important, de ce point de vue-là, de commencer le livre en montrant comment on peut essayer, disons, d'entendre ces voix.
Ces voix.
Et évidemment, on les entend là de façon exceptionnelle dans des situations de refus de la condition esclave et aussi du non. Attaché au terme même esclave, c'est-à-dire la désignation de la personne en tant qu'esclave.
Oui, parce que Nicey Pugh, par exemple, dit « je suis né esclave, mais je n'ai jamais été esclave ». Et de fait, vous dites « nous ne savons pas bien ce que nous nommons quand nous parlons d'esclave ». D'une part, parce que les modes de gestion de l'esclavage sont très 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 différents selon les lieux et les époques, mais aussi parce que dans certains cas, c'est la question de la liberté qui est difficile à définir. Oui. Dans le passage sur Zhang Ru, qui est esclave d'un lettré de Chine au XVIIe siècle. Lui-même écrit « Je ne désirais rien d'autre que de ne plus être esclave », mais vous précisez que d'après, enfin en tout cas selon Robert Yates, le concept de liberté n'existe pas vraiment en chinois. Donc les problèmes se posent de manière très très différente.
Bah, c'est sûr que il y a au moins une grande différence. Bon, il y a au moins deux grandes façons de définir ce que peut être l'esclavage. Et les historiens, les anthropologues ne cessent d'en débattre quand ils sont à la recherche, comme ça, d'une définition universelle de ce que pourrait être l'esclavage. Ce qui est certain, par ailleurs, c'est qu'il y a au moins deux types de constructions sociales qui sont très différentes. Il y a des sociétés qui construisent l'esclavage et la liberté sous la forme de polarités totalement opposées qui structurent, ça fonctionne comme étant le grand partage qui structure ces sociétés, comme dans le monde gréco-romain par exemple. Puis il y a d'autres sociétés où ce qu'on peut qualifier d'esclavage, c'est une forme extrême de dépendance. C'est le statut hiérarchiquement le plus marqué par une forme d'indignité, mais à l'intérieur de toute une gamme hiérarchique de statuts de dépendance. Et c'est évidemment une distinction majeure. Alors on pense que l'esclavage est un objet scientifique, intellectuel suffisamment solide, et malgré ces variations, pour qu'on puisse tenter d'écrire une histoire comparée à son sujet.
Et vous faites la distinction aussi entre les sociétés qui pratiquent l'esclavage et les sociétés esclavagistes, ce qui n'est pas tout à fait la même chose.
Bien sûr.
Et une des choses qui aide à cette distinction, c'est la distinction entre captif et esclave, le captif étant, si j'ai bien compris, considéré comme le produit, le butin, un butin de guerre au début, en tout cas légitimé, l'esclavage est légitimé comme tel, et l'esclave ayant à voir avec le développement de la société marchande. L'exemple de kiosque que vous analysez dans le livre, et je le trouve particulièrement frappant, c'est la première fois, vous dites, qu'une cité marchande développe à ce point, en termes de chiffres en tout cas, l'esclavage, et ça coïncide avec une augmentation de la violence dans le traitement des esclaves.
Oui, c'est-à-dire qu'il y a toute une tradition littéraire ancienne qui attribue à l'île de Chios, en mer Égée, aujourd'hui vraiment c'est la proximité de la côte turque, l'île de Chios, qui attribue donc à l'île de Chios cette invention de l'esclavage marchandise. C'est-à-dire que parmi les Grecs, les Chiotes auraient été les premiers à acheter des hommes avec de l'argent. Et ce serait une des premières sociétés esclavagistes, disons, du monde grec. Et ce qu'on peut voir à Chios, c'est que le développement de l'esclavage est lié au choix, d'une façon que font les Chiotes, d'une monoculture viticole destinée à l'exportation. Et c'est évidemment, on ne peut comprendre, disons, le choix de l'esclavage que dans le contexte de l'ouverture des marchés méditerranéens à la fin de l'époque archaïque, dans le courant du VIe siècle. Alors, effectivement, pour nous, ce qui est important, cette distinction entre société à esclave et société esclavagiste, qui est une grande distinction qu'utilisent beaucoup les historiens et qu'on essaie de travailler ou de repenser à l'intérieur du livre, elle est pour nous capitale, parce qu'évidemment, de très nombreuses sociétés recourent à l'esclavage. Mais certaines sociétés, et c'est les sociétés qu'on peut qualifier de sociétés proprement esclavagistes, et elles sont nombreuses dans l'histoire, mais elles sont pas non plus si nombreuses que ça, mais ce sont des sociétés qui placent l'institution esclavagiste au centre de leur fonctionnement et qui ne peuvent survivre sans recourir aux esclaves.
Wake up, wake up, little sparrow. Don't make your home out in the snow. Don't make your home out in the snow. Little bird, oh, don't you know, your friends flew south many months ago. Your friends flew south many months ago.
Alors l'esclavage est relativement bien accepté pendant très longtemps et le problème va commencer, la crise va naître, on peut, si je résume à gros traits, au moment de l'âge moderne, même avant les Lumières, au moment de l'âge moderne. Vous dites, Sylvia Sebastiani, que dans votre article, la notion de civilisation résume les enjeux des Lumières prises entre un horizon universaliste d'une égale dignité de l'espèce humaine et une vision hiérarchique du monde où l'Europe commerciale est placée au sommet du progrès. Il me semble que c'est une phrase qui résume assez bien la dynamique contradictoire qui va commencer à se jouer à partir des grandes découvertes et à partir du moment où on va passer d'un esclavage, on va passer à un esclavage, ce qu'on va appeler la traite atlantique, un esclavage industriel presque.
Exact. Et ce que je cherche à expliquer avec cette formule que vous avez lue, c'est exactement l'une des contradictions majeures des Lumières, si on veut, que d'un côté, ils considèrent à une vision très universaliste, c'est-à-dire tous les peuples progressent dans la même façon et peuvent arriver à travers un processus de civilisation, selon un néologisme inventé dans les années 1750, dans ces sens des processus, et à se civiliser. Et de l'autre côté, une différente rythme de développement qui fait que non tous les peuples sont développés de la même manière. Donc ça, c'est la première contradiction. C'est-à-dire que si non tous les peuples ont progressé de la même manière, peut-être il y a des causes. Et l'une des discussions des Lumières, c'est exactement quelles sont les causes pour cette diversité de développement. Et parmi les réponses, il y a plusieurs réponses, parce qu'encore une fois, c'est trop facile de regarder les Lumières de façon simpliste. Il y a position, c'est très difficile aussi synthétiser parce qu'il y a toujours quelqu'un qui a une position différente. Mmh. Exactement parce que c'est un débat et c'est un contradictoire. Et ils changent de position exactement parce qu'ils sont dans ces débats. Donc, et les réponses sont multiples. Il y a une réponse que c'est celle climatique, qui est une réponse très répandue, c'est-à-dire il y a des climats qui favorisent plus ou moins un développement plus ou moins actif. Il y a une réponse que c'est plutôt sociologique, c'est la majorité des Lumières. Il y a des questions, des causes morales, c'est-à-dire les gouvernements, la culture, la religion, mais aussi la richesse ou pauvreté d'un pays qui compte. Il y a aussi des questions de diversité naturelle. Mmh. Et tous les trois sont utilisés ensemble pour justifier. Mais je termine la question du commerce. Le commerce peut autant justifier l'esclavage que son contraire, qui est porté à l'abolition de l'esclavage. Les deux vont ensemble.
Oui, c'est une des contradictions auxquelles se heurte l'Occident, c'est que c'est la religion. C'est-à-dire que à partir du moment, pendant très longtemps, l'esclavage est légitimé par le fait que on met en esclavage des individus qui ne sont pas chrétiens ou qui n'étaient pas musulmans, par exemple. Mais à partir du moment où les populations sont converties, la question de la justification de l'esclavage sur des populations converties, il me semble, va se poser. Et donc, comment est-ce qu'on fait? Comment on se débrouille de ça? Parce que le problème de la chrétienté, c'est que c'est quand même de diffuser un message universaliste. Donc, si tous les hommes sont égaux, puisqu'ils portent le Christ en eux, comment certains peuvent-ils être réduits à l'état d'esclaves? Vous dites, Paulin Ismark, qu'à partir de l'esclavage aux États-Unis, la propriété sur un esclave n'est pas définie par sa source ou son origine, mais par ses effets, c'est-à-dire l'ensemble des pouvoirs dont dispose le maître sur la personne de l'esclave. C'est-à-dire que c'est l'effet qui légitime la cause, en quelque sorte. C'est parce qu'on possède quelqu'un qu'on a le droit de le posséder.
Oui, c'est ça. Enfin, c'est-à-dire que c'est la difficulté que pose, d'un point de vue normatif, la source de l'acquisition de l'esclave. La grande justification traditionnelle qui a gouverné, disons, les mondes européens pendant des siècles et des siècles, c'est le droit de la captivité. C'est-à-dire que le droit que possède un vainqueur sur son vaincu, qui lui octroie la grâce de pouvoir vivre, mais qui suppose en contrepartie sa soumission en tant qu'esclave. Mmh. C'est comme ça, voyons, que les auteurs anciens, qu'Aristote, mais aussi Augustin, justifient l'esclavage. Et cette justification, évidemment, elle devient très problématique en particulier dans le contexte de la traite atlantique. Et Cécile Vidal montre très bien, je crois, dans le livre, la façon dont, dans ce contexte, progressivement, au cours du 15e, 16e, 17e siècle, progressivement, puisque c'est des esclaves qu'on acquiert essentiellement par le commerce, le droit des anciens en est substantiellement fragilisé. Et s'élabore progressivement un discours qui légitime la réduction en esclavage par la race.
Oui, alors on va y venir tout à l'heure, mais je voudrais rester une seconde encore sur la question des la manière dont les lumières vont évoluer par rapport à ça. Sylvia Sébastiani, vous parlez en particulier de, alors vous citez Voltaire qui effectivement va changer d'avis, il va passer du mondain de son texte Le Mondain à Candide et puis son essai sur les mœurs en 1761 où sa position va évoluer d'une acceptation de l'esclavage au nom du commerce à une condamnation à peu près totale. Mais le livre le plus intéressant parce qu'il montre toutes les contradictions de l'époque, c'est, vous le dites, c'est l'histoire philosophique et politique des établissements et du commerce des Européens dans les deux Indes, qui est un ouvrage collectif, publié par l'année, publié sous le nom de la Bérénale, et vous montrez à quel point, vous voudrez qu'on trouve dans ce livre toutes les opinions qui se côtoient sans qu'aucune ne soit vraiment tranchée, sans arriver à une conclusion définitive, en tout cas. Et d'un côté, Condorcet et puis Diderot qui condamne, mais à côté de ça, il y a des propositions de réformisme, de pratique, d'une acceptation toute simple. Enfin, c'est cette polyphonie qui est propre aux Lumières.
Oui, c'est exactement... Dans ce sens, l'histoire philosophique et politique des établissements et du commerce des Européens des Andes, les titres, c'est important dans son ensemble, exactement parce qu'ils mettent l'accent sur l'établissement et les commerces. Et il peut être un miroir du débat des Lumières elles-mêmes, tout autant que l'encyclopédie. C'est l'autre exemple typique. Et dans l'encyclopédie, on trouve également des positions très différentes à défense ou bien très violemment contre l'esclavage. C'est les symboles par excellence, l'histoire des Andes, parce qu'en effet, on trouve la condamnation la plus radicale, même l'invocation d'un Spartacus africain qui peut amener à la révolte des esclaves.
Oui, c'est écrit avant que n'apparaisse Toussaint l'Ouverture. Les philosophes prévoient l'irruption de ce qui va effectivement advenir, c'est-à-dire de la révolte en Haïti, qui va jouer un très grand rôle dans l'abolition.
Absolument. Et c'est déjà dans l'année 2240 de Louis-Sébastien Mercier qu'on trouve cette image qui après est réutilisée dans l'histoire des Andes. Donc ça devient quelque chose d'important, mais c'est vrai aussi que Diderot, très probablement, moi je pense qu'il parlait beaucoup plus aux Européens qu'aux Africains à ce moment-là. C'est-à-dire qu'il voulait que les Européens se réveillent et comprendre que dans cette situation actuelle, on va faire exploser la situation et les Européens sont devenus encore plus barbares que les barbares qu'ils condamnent.
C'est ce que Diderot, écrit. Mais ce qui est passionnant, je trouve, c'est de voir comment les Lumières, contrairement à ce qui se dit aujourd'hui où tout le monde condamne les Lumières, c'est comment les Lumières est en fait une dynamique se découvre elle-même et découvre elle-même la portée de ce qu'écrivent les philosophes et découvrent petit à petit qu'ils vont devoir accepter de condamner l'esclavage, ce qui n'est pas du tout évident au départ. Je sais pas qui veut.
Je pense sur ça. Il y a dans les 18e siècle, il faut considérer un peu les données et les nombres de l'esclavage qui il grandit de façon exponentielle. Oui. Et ça, c'est très important, parce que dans la première partie du XVIIIe siècle, il n'y a presque pas des critiques de l'esclavage, ou en tant que tel, sans doute, et très peu. C'est critiques aussi, on commence à critiquer la façon de traiter les esclaves. Ça, oui, on les trouve, mais ça devient de plus en plus importante avec le boom de l'esclavage lui-même, elle-même. Donc c'est vraiment avec le boom de l'esclavage. C'est surtout à partir de la deuxième moitié du XVIIIe siècle et encore plus avec la guerre de Sept Ans qui marque un tournant. Encore, on revient à la question du commerce. La guerre de Sept Ans, c'est le premier conflit commercial à échelle mondiale. Et ça, et surtout pour le monde britannique, mais pas que, c'est vraiment le moment où les nombres des esclaves vendus et achetés se multiplient. Et donc, sont seulement sur les navires britanniques, 42 000 chaque année. Ouais. Et en plus, dans la Grande-Bretagne, au début du siècle, tout s'est multiplié par 3. Par rapport entre les débuts du siècle et la mi-siècle, c'est multiplié par 3, donc on part des 70 000, grosso modo, aux 230 000, et après, on se multiplie encore par 3 à la fin du siècle. Oui, donc c'est vraiment énorme.
Je ne sais plus dans quel article, à un moment donné, il est dit que dans le dernier tiers du 18e siècle, la population jamaïque est composée à 90% d'esclaves.
C'est ça.
C'est énorme.
C'est ça.
Donc c'est ça aussi qui fait évoluer les philosophes,
oui.
Bien sûr. Alors, je voudrais qu'on arrive à la troisième partie de cette émission, la plus troublante d'une certaine manière, c'est-à-dire qu'à partir du moment où effectivement l'abolitionnisme va gagner, je crois que c'est dans votre article, Sylvia Sébastiani, j'en ai lu beaucoup, donc je finis par tous les mélanger, mais vous citez Nancy Stepan, qui pose la question, comment se fait-il que précisément au moment où la bataille contre l'esclavage est finalement remportée par les abolitionnistes, la guerre contre le racisme dans la pensée européenne est en train d'être perdue? C'est-à-dire qu'il y a une tension dialectique qui fait qu'à mesure que l'abolition va gagner, le racisme va monter. Alors oui, c'est un des points très importants dans le livre, qui il me semble, une erreur historique majeure qu'on entend partout aujourd'hui, à savoir que l'esclavage serait le produit du racisme.
C'est l'inverse.
C'est l'inverse. L'article de Cécile Vidal est assez passionnant là-dessus, dans le livre. Elle rappelle comment l'émergence de la notion de race dans la péninsule ibérique naît au XVe siècle, non pas en liaison avec la traite de l'esclavage, mais en liaison avec les juifs et les conversos, ce qu'on va appeler les maranes et les morts. C'est-à-dire que la conversion en masse, c'est la conversion en masse qui provoque la méfiance, qui fait qu'on ne sait plus distinguer, on ne sait plus qui est qui, en fait, et on ne sait plus qui était juif, qui était mort, puisque tout le monde est devenu chrétien, et donc il va falloir essayer de retrouver une façon de différencier les gens, et on invente la doctrine de la pureté du sang, inspirée de la conception de la noblesse, selon laquelle le sang juif est inférieur au sang chrétien. C'est ça la base.
C'est aussi le centre de notre livre. C'est exactement, c'est le même parcours,
oui,
qu'on suit dans les livres. C'est exactement, on part, à vrai dire, dans la noblesse comme premier point, et après les conversos, donc ces juifs, exactement pour montrer une chose, premier point, par rapport à la race, après j'ai fait parler Paulon, c'est-à-dire que visibilité et invisibilité sont toujours ensemble. L'intérieur de l'Europe et l'extérieur de l'Europe aussi. Mm-hmm. Les mouvements sont beaucoup plus complexes et ne peuvent pas seulement dire que c'est l'Europe contre le reste du monde qui crée la race, mais qu'il y a des racines européennes aussi, et il n'y a pas la nécessité d'avoir une couleur et physique différente pour constituer, pour inventer des façons pour distinguer. C'est presque un peu le contraire. C'est un peu comme il s'agit quand on parle de l'abolition. C'est exactement, c'est contre-intuitif, mais c'est exactement pour marquer des différences qu'on a besoin.
L'esclavage va être associé à la couleur progressivement à partir de la seconde moitié du 15e siècle, à mesure que va se développer la traite et non plus l'esclavage de captivité, en quelque sorte.
Oui, alors c'est un point vraiment important, parce que les esclaves soient infériorisés, que même ils incarnent dans de nombreuses sociétés une forme d'altérité fondamentale, c'est commun à de très nombreuses sociétés esclavagistes. Mais le discours de la race, c'est vraiment une singularité. Alors, le livre discute son apparition, disons, dans le contexte de la traite transatlantique. Il y a aussi des débats, éventuellement, un des auteurs, Julien Loiseau, pense par exemple qu'on peut reconnaître quelque chose comme le concept de race dans l'Égypte du 15e siècle, justifiant la mise en esclavage de certaines populations. Bon, en tout cas, ce qui est certain, c'est que dans l'histoire européenne, c'est vraiment le produit de la traite transatlantique, et c'est assez tardif en réalité c'est pas la motivation.
Bien sûr. Une des choses que j'ai apprises dans le livre, c'est que cette histoire de comment le racisme naissant et la traite se lient en quelque sorte. Un des exemples qui est donné, c'est que au début de la colonisation américaine, c'est cette idée de la pureté du sang héritée des Espagnols et donc de l'époque marane, des persécutions contre les Juifs convertis et contre les Maures, qui fait que on va inventer que le sang des Amérindiens, donc des Indiens, est aussi pur que celui des païens contemporains du Christ entré dans la communion chrétienne, pour justifier le fait qu'on ne met pas en esclavage les Amérindiens, mais plutôt les Noirs. Les Amérindiens ne sont pas censés avoir été contaminés par une ascendance juive ou musulmane, alors que les esclaves noirs, ils sont, je ne sais pas s'ils sont contaminés par une ascendance juive ou musulmane, mais en tout cas, ils sont considérés comme inférieurs du fait de la couleur de leur peau. C'est j'ai bien compris.
Oui, tout à fait. De ce point de vue-là, il y a une histoire proprement ibérique qui est particulièrement importante, parce que ça se joue en fait entre, disons, les ports de la traite transatlantique. L'Espagne, avec quand même un nombre considérable d'esclaves qui arrivent sur le sol espagnol dans la deuxième moitié du 15e siècle et au début du 16e siècle, tout ça se reconfigurant et se projetant ensuite dans l'espace américain.
Alors toute la difficulté, ça va être qu'à mesure que se développe ce qu'on a dit tout à l'heure, les tendances des Lumières et la question de la... À mesure qu'on va chercher une légitimation à la pratique de l'esclavage, les règles de pureté de sang vont jouer un rôle de plus en plus important et vont devenir aussi de plus en plus complexes. Il me semble que le point focal de la répulsion, en quelque sorte, ça va être la question du métissage. Comment garder la frontière entre les hommes libres et ceux qui ne le sont pas? Les noirs, les blancs, c'est clair, mais à partir du moment où les mélanges se font, ça devient pas clair du tout. C'est donc le métissage qui va devenir le point de focalisation de la répulsion, en fait.
Non. Absolument. Absolument. Et au sens que c'est là, et les moments, et les métissages jouent un double rôle. À vrai dire. C'est-à-dire, elle joue un rôle de la répulsion totale, la peur de la contamination du sang, et ça reste jusqu'à la fin des Lumières, sans doute, même, vous avez tout à fait raison, de plus en plus. Et la question du sang, on peut le trouver au départ avec toutes les questions raciales, mais on continue à la trouver dedans. Mais il y a aussi une question d'ingénierie raciale. On commence à réfléchir à qu'on peut construire, à travers le métissage, une race différente pour défendre les colonies. Mm-hmm. Ça aussi existe. Mm-hmm. Et les deux vont ensemble, mm-hmm. je pense.
Mm-hmm. C'est très paradoxal, parce qu'à mesure que l'abolition progresse, Il va y avoir une recherche de plus en plus féroce de limites, de frontières pour déterminer qui peut être libre et qui n'est pas libre. Alors, il y a des exemples qui sont cités par Cécile Vidal qui sont très amusants. Les calculs de Thomas Jefferson cherchant à établir les ratios de sang nègre en 1815. Les 128 catégories raciales issues du croisement d'un homme blanc ou d'une femme de couleur jusqu'à 6 degrés de métissage qui sont dressés par un juriste antillais du nom de Louis Eric Moreau en 1797. C'est-à-dire qu'on a de plus en plus de mal à déterminer. La difficulté à légitimer l'esclavage va engendrer une obsession de la race, en quelque sorte, qui va trouver son évolution au 19e et au 20e siècle.
Absolument. C'est exactement ce qui se passe. Ça devient de plus en plus, et aussi exactement parce que l'esclavage n'est plus le système qui garantit lui-même les inégalités.
Voilà, c'est ça.
On invente d'autres façons.
Le paradoxe, c'est que les sociétés d'ancien régime légitimaient un ordre sociopolitique par le recours à la providence, en quelque sorte, c'est ça. Et qu'à partir du moment où la providence n'existe plus, où tout est le produit des lois et des décisions qui sont prises, les choses deviennent beaucoup plus difficiles à définir.
Et c'est en ce sens-là, oui, d'ailleurs, que l'histoire de l'esclavage a à voir avec l'histoire de la modernité,
oui,
avec ce terme classique qui est celui du désenchantement du monde. Effectivement, bien sûr.
C'est ce qu'on retrouve partout dans les livres de Faulkner. C'est à chaque page des livres de Faulkner où la question de l'origine, la question de la hantise de l'inceste, la hantise de savoir qui est qui et qui, d'où vient qui est centrale. Je me suis demandé aussi en lisant le livre, si on n'avait pas quelque chose comme ça aujourd'hui. On a vu ça beaucoup dans les Antilles aussi, avec la question de savoir qui est noir, qui est plus ou moins noir, qui est plus ou moins blanc, enfin toute cette difficulté. Mais si on n'avait pas ça aussi aux États-Unis en ce moment, si une des conséquences de la lutte pour les droits civiques avec n'était pas justement l'émergence pour la première fois dans l'espace public d'une génération métisse, à commencer par Obama bien sûr, mais pas seulement lui, et générant une sorte de retour de l'obsession de la pureté qu'on trouve maintenant non seulement à droite mais aussi sur les campus américains, avec des demandes de plus en plus importantes de ségrégation entre blancs et noirs au nom du combat. Je me suis demandé si on pouvait pas dessiner quelque chose comme ça, Poulain Ismar.
Je ne sais pas si vous mettez en miroir ces deux obsessions. Je ne sais pas si on peut vraiment le faire, parce qu'en fait cette obsession, elle, je pense, sans être du tout spécialiste de l'histoire des États-Unis, mais je pense qu'elle travaille la société américaine depuis très très longtemps.
Oui.
Votre hypothèse, c'est que c'est l'apparition de métis qui provoquerait quelque chose aujourd'hui. J'ai l'impression que ça reste quand même un phénomène très très minoritaire et que
peut-être. Ouais. Peut-être, je sais pas. En tout cas, c'est ce qui est remarquable. Enfin, pour revenir à l'époque et pour revenir au livre, ce qui est remarquable, c'est comment cette dialectique entre le progrès et puis la réaction au progrès qui va exploser à partir de la fin du 19e siècle, dans tout le courant du 19e siècle, avec les livres de Gobineau, avec la scientifisation progressive des théories raciales pour essayer de rétablir quelque chose comme un ordre.
Oui, la race devient de plus en plus la façon d'ordonner et l'humanité. Et aussi les histoires, que là où dans les Lumières on trouve toujours une contradiction entre hiérarchie et universalisme, la contradiction est résolue avec une idée que c'est dans les sangs, c'est-à-dire dans les origines, dans les possibilités des peuples d'avoir des histoires différentes. Et c'est fini, il n'y a plus cette tension, contradiction qu'on peut construire, etc. Mais il faut dire aussi que la race n'est jamais stable. Il y a toujours des contestations des questions raciales. Il n'y a jamais une vision unanimement acceptée par tout le monde. Ce n'est jamais le cas, n'a jamais été le cas, n'est aujourd'hui. Aussi parce que c'est une invention. La race elle-même elle n'a rien de biologique en soi. Donc, on peut l'adapter et c'est cette malléabilité qui fait sa force.
Poulain Ismar, un livre comme ça, aujourd'hui, dans les débats actuels, à votre avis, qu'est-ce qu'il peut apporter dans le débat actuel et dans la question autour de la mémoire de l'esclavage?
D'abord et avant tout, parce qu'on est historien et on travaille avec nos instruments, c'est sortir de la méconnaissance sur ces sujets.
Oui. Parce qu'il y a beaucoup de confusion. Hein.
Il y a énormément de confusion et on voit bien que l'esclavage, mais aussi l'abolition, sont aujourd'hui brandis comme des mots d'ordre par différents camps, avec des agendas politiques extrêmement problématiques, je pense, très souvent. Et de ce point de vue-là, voilà, nous on veut de façon donner à lire, à comprendre une histoire extrêmement longue, mais aussi c'est important pour nous réinscrire cette question dans, disons notre histoire et aussi notre mémoire commune, et insister sur le fait que nous on s'intéresse à l'esclavage, mais c'est pas une histoire des esclaves en tant que telle. C'est dans quelle mesure l'esclavage éclaire le fonctionnement des sociétés en général, et il éclaire le fonctionnement de notre société, et je parle vraiment aussi de la France d'aujourd'hui.
Et vous dites dans l'introduction, l'esclavage n'est pas l'histoire des autres.
Non. Oui. Bien sûr, c'est pas une histoire des autres, et c'est pas non plus une autre histoire.
Mmh. C'est la nôtre.
Oui, absolument.
Mmh. Et c'est pourquoi que je pense aussi pour le 18e siècle ou toute l'histoire, il faut remettre l'esclavage au centre, parce que ça a été le cas. Et donc aussi tous ces philosophes qui réfléchissaient sur l'universalisme, etc., avaient face à eux cette réalité qu'il faut remettre dans l'agenda, parce que en vérité, il réfléchissait aussi sur ces questions. Et je pense que c'est très important.
March, the freedom's highway. March, each and every day. March, the freedom's highway. Each and every day, made up my mind, and I won't turn around. Made up my mind, I won't turn around. Listen, there's this one thing,
march.
I can't understand, my friend,
marching.
Why some folk think freedom,
march,
were not designed for all men,
marching.
There are so many people,
march,
living their life perplexed,
marching,
wondering in their mind,
march,
what's gonna happen next.
That's why we gotta march,
the freedom's highway. March, each and every day. Yeah, march, the freedom's highway.
Merci Paulin Ismar, merci Sylvia Sébastien.
Merci.
Merci.
C'était Signe des Temps, une émission de Marc Wetzmann, assistée de Aurélie Marsay, avec à la technique Dali Yaha et à la réalisation Luc-Jean Renaud.
For the right man,
march.
Said we'd overcome,
marching,
still freedom's highway,
march.